Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Les petits déjeuners présidentiels en partenariat avec le Progrès et le Dauphiné.
Yves Calvi, Benoît Hamon.
Vous allez maintenant, Benoît Hamon, discuter avec les auditeurs d'RTL qui vont vous interpeller au 3210. Et le premier à vous poser une question s'appelle Jean-Gilles. Il nous appelle de Boulazac en Dordogne. Bonjour Jean-Gilles.
Oui, bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Monsieur Hamon.
Bonjour Monsieur.
Voilà, parmi les différents points de divergence que vous avez avec Monsieur Mélenchon, il y en a un qui m'interpelle, c'est de votre relation à l'Union européenne. Je pense qu'on peut considérer que vous êtes quand même plutôt pro-européen. Vous aviez dit, me semble-t-il, que vous souhaitiez, c'est la divergence que vous avez avec Monsieur Mélenchon, amender certains traités. Parmi les différents traités, il y en a un, moi, qui m'interpelle, qui me tient à cœur, et qui appelle de ma part les commentaires suivants. Parmi toutes les mesures que vous voulez prendre, qui sont destinées, je dirais, à améliorer le quotidien de nos concitoyens, ces différentes mesures vont coûter très très cher. Bien. Parmi les différents traités, il y a le respect de la règle, je dirais, fondamentale des 3% de déficit. Mmh. Pensez-vous être en mesure de respecter ces 3% ou alors souhaitez-vous que cette règle des 3% soit amendée pour porter le niveau des différents déficits à un niveau supérieur.
Je me permets de vous interrompre. Peut-être on va poser la première partie de votre question à Benoît Hamon. C'est d'abord comment comptez-vous respecter la règle européenne des 3%?
Je l'ai dit, moi, la trajectoire des finances publiques sur laquelle je projette mon projet m'amènera à mettre les déficits en dessous de 3% au terme du quinquennat, mais il y aura des investissements qui supposeront, sur les deux premières années, que nous soyons au-delà des 3% de déficit public, sous les 4, mais au-delà des 3%. Et je considère que cette règle, qui est une convention comptable, doit être interprétée avec souplesse, surtout quand il s'agit de relancer l'économie, de créer des emplois en France. Cela veut donc dire que, oui, moi, je me projette en fonction de ce que je jette l'intérêt de la France, et l'intérêt de la France aujourd'hui ne passe pas forcément de manière linéaire et stricte par le respect des 3%. Je les respecterai au terme de mon quinquennat, mais pour ce qui est de l'année 2018 et de l'année 2019, je considère que cette règle-là doit être, ne doit pas encadrer et enfermer les choix d'investissement qui seront ceux de la France.
Et comment allez-vous l'expliquer à nos partenaires européens, qui une fois
ainsi,
de plus attendent de nous qu'on respecte
dire,
un tout petit
français,
peu notre parole,
en allemand et en anglais, et avec beaucoup de simplicité, parce que je considère que ce carcan-là a expliqué que dans beaucoup de pays, on se retrouve avec un chômage extrêmement élevé ou un niveau de pauvreté extrêmement élevé. Je ne suis pas dupe des pays qui ont massivement réduit leur chômage, mais en augmentant massivement la pauvreté. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Et je ne veux pas de cette perspective-là pour mon pays. En Allemagne, je le rappelle, s'il y a 5 à 6% de chômeurs, il y a 17% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, largement plus qu'en France.
Bonjour Yves, merci d'écouter RTL. Vous interrogez maintenant Benoît Hamon. Je précise que vous êtes chef d'entreprise.
Merci Yves Calvi de me donner cette parole. Monsieur Hamon, vous venez de dire à l'instant que vous souhaitiez réduire le chômage et éviter que les salaires également aient la possibilité de baisser. Je ne comprends pas pourquoi vous ne décidez pas de mettre en place la proposition qui est faite aujourd'hui par Michel Leclerc, le frère d'Edouard Leclerc. Il est d'ailleurs disponible sur un site qui s'appelle tva-social.fr, de basculer la totalité des cotisations sociales, qu'elles soient salariales et patronales, sur le budget de l'État au travers de la TVA et de la CSG, ce qui augmenterait de 34% le pouvoir d'achat des SMICards.
Mais moi, j'ai une autre proposition que celle-là, et je considère qu'aujourd'hui, sans augmenter le salaire brut, on peut augmenter le salaire net grâce au revenu universel d'existence, et en le concentrant sur les salaires qui sont les plus modestes, c'est-à-dire jusqu'à 2 200 € net. La proposition que je fais, que je mets sur la table, qui est extrêmement concrète et qui ne remet pas en cause le financement de la sécurité sociale, est de permettre demain qu'un salarié au SMIC, sans que cela n'affecte le SMIC brut, un salarié au SMIC touchera non plus 1 150 € net par mois, mais 1 350 € net par mois. Cela veut dire aussi qu'à mi-temps au SMIC,
je pense 200 € de plus.
Quasiment 200 €, j'arrondis à l'euro supérieur, mais quasiment. Cela vaut donc dire l'équivalent d'un 13e et d'un 14e mois quand on est au SMIC. C'est encore plus fort en termes de revenus universels sur ceux qui gagnent le SMIC ou quasiment le SMIC à mi-temps. Je pense à toutes ces femmes notamment, parce que ce sont dans des emplois peu qualifiés dans le domaine des services à la personne que l'on trouve beaucoup de femmes qui sont sur des temps partiels subis, qui veulent pouvoir articuler un revenu et une vie personnelle, le fait d'éduquer leurs enfants et qui voient se concentrer sur elles l'essentiel des difficultés. Là encore, le revenu universel leur donnera la respiration en termes de pouvoir d'achat qu'elles n'ont pas. Donc je suis plus favorable à cela. Cela étant dit, moi je suis toujours ouvert aux propositions qui existent dès lors qu'on se pose la question de savoir comment donner à chacun un revenu décent, surtout quand on travaille. La manière de valoriser le travail par le salaire est importante, comme la manière aussi tous les choix qui peuvent être faits pour améliorer la qualité du travail, parce que il y a une très belle enquête qui vient d'être rendue publique par la CFDT qui montre que beaucoup de Français trouvent qu'ils travaillent trop intensément, c'est-à-dire que la qualité de leur travail n'est pas au rendez-vous. Ils sont heureux d'aller travailler parce qu'ils en tirent un revenu. Parfois, ils sont heureux d'aller travailler parce qu'ils s'y épanouissent. Mais aussi, ils sont nombreux à considérer aujourd'hui que ce qui pèse sur leurs épaules dans la qualité de leur travail suppose d'être changé. D'où les propositions que je fais en matière de co-gestion et de rôle des salariés dans l'entreprise vise à ce que, sur le modèle allemand, nous avancions vers une forme de participation plus forte des salariés aux décisions qui concernent leur vie, leur travail et leur entreprise.
Et c'est l'occasion de donner la parole à Arnoul qui nous appelle de Strasbourg et qui veut vous interroger justement sur le revenu universel. Arnoul, bonjour, merci d'écouter RTL. Benoît Hamon vous écoute.
Oui, bonjour Yves Calvi et bonjour monsieur Hamon.
Bonjour monsieur.
Ma question est très simple. Vous vous êtes fait élire à la primaire de la gauche sur votre revenu universel essentiellement, et par réalisme économique, vous l'avez un peu retoqué. Et moi, la question que je me posais, c'est à partir de quel salaire le revenu universel va être repris de manière plus importante via l'impôt que le revenu universel en lui-même ? Parce que si vous ne financez pas par des gens comme moi qui payent beaucoup d'impôts le revenu universel, je vois mal comment vous allez le financer.
Alors, le revenu universel, j'ai toujours dit c'était une fusée à plusieurs étages. On ne peut pas me reprocher d'avoir été constant là-dessus. D'avoir dit que nous ne pourrions pas mettre en œuvre un revenu universel distribué à tous du jour au lendemain. J'ai toujours dit qu'il y aurait une première étape. Cette première étape, j'ai voulu l'élargir aux salariés qui gagnent jusqu'à 2 200 € net. Qui ne percevront pas 2 200 plus 600, mais une fraction qui va être une fraction du revenu universel qui sera dégressive du SMIC jusqu'à 1,9 SMIC.
Il n'y a plus de caractère universel sur cette première mesure-là. Contrairement à la version précédente.
Non, c'est pas concernant la première version que j'ai proposée aux primaires, en première étape, c'était les pauvres, le RSA et les jeunes, qui n'étaient pas déjà universels. Ce que je propose là, c'est que 19 millions de personnes vont être concernées par la première étape du revenu universel. Ce que je souhaite, c'est quoi ? Et je veux insister là-dessus. C'est de permettre à des personnes de pouvoir avoir un moyen de réduire leur temps de travail sans perdre significativement de pouvoir d'achat dans des métiers qui sont des métiers difficiles. Ce que je souhaite, c'est permettre à des personnes qui aujourd'hui ne tirent pas un revenu suffisant de leur travail de disposer des moyens corrects et décents de vivre dans un pays dont je rappelle qu'il est la 6e puissance économique mondiale et qu'il continue à s'enrichir toujours plus. Et ce qui me semble nécessaire aujourd'hui, c'est effectivement de mettre en place des mécanismes de transfert de richesse et de redistribution qui évitent qu'aujourd'hui se creusent les inégalités. Je parlais de 1 à 7.
C'est exactement la question d'Arnoux. Et en fait, il voudrait savoir donc, combien vont augmenter ces impôts avec vous.
Elles n'augmenteront pas. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt sur le revenu. Les ressources que je mobilise, je les évoquais tout à l'heure. J'ai évoqué la taxe sur les super-profits des banques, ce qui ne concernera pas le contribuable. J'ai évoqué une réallocation partielle du CICE. J'ai évoqué toutes les économies structurelles. Savez-vous combien nous coûte, par exemple, on oublie cela, combien coûte aux finances publiques la pollution aujourd'hui de l'air par an ? 5,5 milliards d'euros pour les finances publiques. Le coût pour la société, 52 milliards d'euros liés aux maladies, etc.
Il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu, avez-vous dit à notre auditeur, là, à l'instant ?
Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt sur le revenu. Je ne finance pas le revenu universel par l'impôt sur le revenu.
Non, mais il y aura, par ailleurs, compte tenu de votre programme, des augmentations d'impôt sur le revenu.
Mais je ne parle pas d'augmentation. Vous n'avez vu écrit ça où ?
Vous pouvez pas m'inventer.
Je vous pose la question.
Moi, je milite pour que demain, puisque l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source, que nous rapprochions la CSG de l'impôt sur le revenu, s'il peut être plus progressif. Évidemment,
vous souhaitez qu'il soit plus progressif.
Je souhaite qu'il soit plus progressif, comme quiconque s'intéresse à ce que chacun contribue à la hauteur de ses facultés. Mais je ne souhaite pas demain qu'il y ait une augmentation de l'impôt, notamment sur les classes moyennes, qui payent suffisamment d'impôts. Là où je suis attaché, c'est qu'il n'y ait pas de suppression de l'ISF. Je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit François Fillon ou Emmanuel Macron, vouloir ou supprimer partiellement ou totalement l'ISF est dans la situation actuelle une forme d'injustice supplémentaire. Je rappelle que Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, a eu raison de rappeler que la proposition d'Emmanuel Macron, c'est d'économiser 2 milliards d'euros sur 3 400 contribuables, qui vont faire, eux, une belle économie. On pourra remercier Emmanuel Macron, je ne vois pas en quoi ça fera mieux fonctionner l'économie et ça aidera à améliorer la solidarité dans ce pays.
Et dans un instant, Benoît Hamon, vous dialoguez avec une auditrice d'RTL qui est aussi une lectrice du Progrès. A tout de suite.
RTL Matin, 8h28.
RTL Matin.
Les petits déjeuners présidentiels.
Avec Yves Calvi et Benoît Hamon.
8h31, Benoît Hamon est donc l'invité aujourd'hui de ce petit déjeuner de la présidentielle. Et c'est une auditrice d'RTL qui va maintenant vous interroger. Elle est par ailleurs lectrice du Progrès, Benoît Hamon. Bonjour Paul.
Bonjour Monsieur Hamon et bonjour à tous les alentours. Donc aujourd'hui à la retraite, j'ai passé 31 ans sur le plateau des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, et 20 ans dans le même établissement. J'ai assisté de l'intérieur à l'impact de la dégradation du climat social sur le climat de l'école. Hein, quand je pense particulièrement au chômage prolongé, à la discrimination face au logement, au discours anti-immigrés, à la paupérisation des plus fragiles, etc. Et cette dégradation, elle a provoqué petit à petit un phénomène de repli identitaire d'une partie de la population autour de la religion, mais largement exploitée et favorisée par l'extrême droite, bien sûr, rejointe par une bonne partie de la droite et des associations fondamentalistes. Donc on voit bien que ce repli identitaire est venu percuter, interroger notre laïcité jusque dans l'école. Et j'aimerais poser cette question parce qu'effectivement, face à ce repli identitaire, eh bien, on sent que la tentation du repli autoritaire est grande et on le sent en ce moment durant cette campagne. Donc, j'attends pas une solution miraculeuse d'un homme providentiel que vous ne souhaitez ne pas être, monsieur Hamon, j'ai bien entendu. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une formidable énergie et puis d'extraordinaires volontés qui existent, bonne volonté qui existe dans la société au travers de milliers d'associations.
Je me permets de vous interrompre. La question, c'est, excusez-moi, que compte faire Benoît Hamon contre le repli identitaire ?
Comment faire pour qu'il y ait suffisamment de qu'il y ait le tissu social se resserre et devienne et permette, si vous voulez, qu'il n'y ait pas ce percutage et qu'il n'y ait pas
Et c'est un ancien professeur qui vous pose la question. En fait, elle est en train de vous dire qu'il ne faut pas laisser ce boulot à l'extrême droite. C'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
D'abord, elle a parfaitement raison. Merci, madame, pour à la fois la question et le diagnostic. Il y a aujourd'hui, c'est ce qui est assez frappant, chez beaucoup de jeunes, une forme d'identité de consolation. Faute de vivre ensemble, vivons entre nous.
Identité de consolation.
Oui, qui peut être une identité
religieuse. On doit les consoler de quoi ?
Pour les consoler, justement, du fait qu'on ne vit plus ensemble, la République s'incarne assez mal quand on fait davantage l'expérience de l'inégalité que de l'égalité, davantage l'expérience de la discrimination que de la fraternité, davantage l'expérience de la contrainte que de la liberté. Ça, je le dis, pour ceux qui sont apôtres de la liberté, on est rarement libre quand on n'a pas les minimums pour vivre. Parenthèse close. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout cela suppose un travail considérable, notamment pour ne pas laisser les services publics reculer. Chaque fois que l'on dit moins de fonctionnaires publics territoriaux, chaque fois qu'on dit moins de dotations aux collectivités locales, chaque fois qu'on dit moins de moyens aux associations, chaque fois qu'on baisse les budgets de la culture, eh bien, ce que nous faisons, c'est dégrader le lien social. Chaque fois que l'on dit l'éducation pourra bien s'en sortir si on met un peu plus d'autonomie plutôt que de moyens, là, on laisse progresser aujourd'hui tous ces phénomènes qui sont des phénomènes qui sont en train de déstructurer à sa base, dans ses fondations, la République.
Alors justement, dans ce domaine, vous voulez revoir la carte scolaire pour imposer la mixité sociale. Vous faites comment avec tous les parents qui aujourd'hui la contournent ou avec les établissements privés aussi ?
Alors, Francis Brochet, notre confrère du Progrès et du Dauphiné.
D'abord, pourquoi vouloir cela ? Parce que nous savons que dans tous les établissements où il y a de la mixité sociale, la réussite est meilleure, notamment pour les élèves les plus en difficulté. Et il y a une sorte de... C'est peut-être un peu contre-intuitif, comme on dit, mais on veut pouvoir mettre ses élèves dans les meilleurs établissements. La réalité, c'est que plus c'est mixte, mieux c'est, même pour les élèves qui sont, en général, ceux qui ont les meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils tirent les autres vers le haut et que cela est aussi bon pour eux. Donc oui, je veux de la mixité sociale. Sauf qu'il y a des bassins de recrutement aujourd'hui qui ne sont pas mixtes. Donc comment faire de la mixité sociale dans un collège qui est dans un territoire, lui, très homogène socialement ? Donc je veux élargir les territoires de recrutement. Je veux permettre aux parents de faire plusieurs vœux pour pouvoir dire dans quel collège d'un bassin de recrutement ils souhaitent que leur élève aille. Mais ensuite, faire en sorte qu'il y ait un objectif pour le rectorat, c'est que tous les collèges soient mixtes. Pour y arriver, cela suppose d'ouvrir un dialogue avec l'enseignement privé. C'est cela que je veux faire, c'est qu'il faut que nous puissions discuter avec l'enseignement privé qui contribue au service public d'éducation aujourd'hui, c'est une partie de sa mission, puisqu'il applique les programmes de l'éducation nationale, que ses enseignants sont salariés, sans coercition, sans les obliger, mais je veux que ce dialogue existe pour que nous fixions un objectif commun de mixité sociale par lequel nous parviendrons à élever le niveau d'éducation de nos enfants et de nos collégiens, nos adolescents, et qui contribuera de manière là, décisive à justement éviter ces phénomènes de ségrégation tels que nous les constatons aujourd'hui dans certains territoires de la République.
Merci à Paul pour sa question, merci à Francis
Brochet,
qui est notre partenaire aujourd'hui de la presse quotidienne régionale Le Dauphiné et Le Progrès.